au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis, bonjour. Au fil des pages, je reçois le professeur Franck Bournois en tant que co-auteur d'un ouvrage collectif exceptionnel qui est paru aux éditions d'organisation chez Erol, dont le titre est « Comité exécutif, voyage au cœur de la dirigeance ». Alors, monsieur le professeur Franck Bournois, bonjour. Vous avez co-dirigé cette œuvre collective avec Monsieur Jérôme Duval-Hamel, qui lui-même est professeur, Sylvie Roussillon et Jean-Louis Scarangela, et un ensemble d'experts, je crois d'ailleurs au nombre de 145, c'est quand même qui donne la dimension du problème. J'imagine que ce fut un travail de très longue haleine, colossal. Qu'est-ce qui vous a motivé pour entamer ces travaux que je dirais gigantesques? Je vous présenterai un peu plus longuement tout à l'heure.
Très bien, merci Monsieur Chambon et merci encore une fois de votre invitation sur Canal Académie. C'est vraiment un privilège que de pouvoir partager en effet ces questions qui en effet sont des questions parfois un petit peu confidentielles car le titre, comme vous l'avez rappelé, comité exécutif, concerne généralement un tout petit nombre de personnages dans l'entreprise, hein, le comité exécutif, encore appelé parfois comité de direction au sens classique, j'allais dire une douzaine de personnes en général.
Mais qui sont très regardées par les salariés.
Très regardées par les salariés, dont les rémunérations sont augmentées, dont les parcours de formation sont également regardés à la loupe. Et par rapport à votre question, en effet, qu'est-ce qui fait que l'on peut avoir envie de se passionner d'une part et d'écrire sur un tout petit nombre et à autant d'auteurs, vous l'avez rappelé, 143 contributeurs, eh bien, je crois que c'est le souci qui nous a animés tous en tant qu'auteurs d'avoir une vision globale, un faisceau de projecteurs en quelque sorte, sur ceux qui sont à la tête des grandes entreprises et pas uniquement, je veux dire, d'écrire sous un angle un petit peu étroit, soit sous un angle strictement juridique, soit sous un angle strictement psychologique, voire psychanalytique, finalement, pouvoir rendre compte de réalités et de pratiques telles qu'elles sont dans leur complexité au quotidien d'un cadre dirigeant.
Mais à travers une réalité que vous connaissez tous de façon très proche et très opérationnel, ce qui est extrêmement important dans votre...
Oui, vous avez raison, pour des raisons différentes. Jérôme Duval-Hamel a été lui-même membre d'un comité exécutif d'un grand groupe français. Jean-Louis Scarangela également, il a dirigé HEC et a dirigé l'École supérieure de commerce de Paris, ESCP-EAP. Et Madame Roussillon est également membre d'un comité de surveillance et moi-même depuis une vingtaine d'années j'officie en tant qu'adjoint de dirigeant et plus généralement maintenant en tant que formateur développeur des talents de ceux qui dans 15 ans 20 ans
deviendront
membres de comité exécutif, du moins j'espère.
D'accord. Alors justement, donc je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Paris 2 Panthéon Assas, vous dirigez le centre interdisciplinaire de formation de la fonction personnelle CIFOP, donc vous savez particulièrement de quoi vous parlez. Vous êtes également professeur à l'ESCP-EAP, où vous dirigez la chaire dirigeance d'entreprise. Ceci, bien entendu, explique cela. Vous avez publié plusieurs ouvrages et participé donc à plusieurs ouvrages, dont les meilleures pratiques des ressources humaines du CAC 40 chez les éditions de l'organisation. Alors, votre sujet, c'est la dirigeance. Et je dirais que on entend beaucoup plus parler, et on a entendu beaucoup plus parler, d'ailleurs peut-être trop parler, et on a peut-être assez peu fait, plutôt de la gouvernance que de la dirigeance. Alors, peut-être qu'à ce point de votre présentation, il est bon de rappeler ce qu'est la dirigeance, ce qu'est la gouvernance et comment ça marche entre eux.
Très bien, écoutez, je vous remercie d'abord de me donner l'occasion de nous expliquer sur un néologisme.
Tout à fait.
Car en effet, dans ces prestigieux locaux, si vous regardez le dictionnaire, vous ne trouverez pas le mot « dirigeance » en tant que tel. Le néologisme, simplement, s'impose parce que les questions de gouvernance ont trop longtemps regardé strictement la vie de l'entreprise et le fonctionnement des cadres supérieurs et dirigeants par la lorgnette, j'allais dire, du conseil d'administration et donc de l'actionnaire.
Absolument.
Et il est vrai, il est indispensable de regarder les questions d'actionnariat, mais les membres de comité exécutif ont, eux, un rôle absolument spécifique qui est de transmission des questions de gouvernance à l'ensemble des managers et des collaborateurs de l'entreprise. Et nous voulions aussi insister avec ce terme de dirigeance sur le fait que les grands enjeux se situaient aussi au sein du comité de direction, qu'il y avait des rôles bien, bien spécifiques et qu'il leur revenait, ne l'oublions pas parce que eux sont présents au quotidien dans l'entreprise pour la faire fonctionner, il leur revient de diffuser les grands messages de gouvernance. Et donc, la dirigeance, c'est l'analyse, la traduction des questions de gouvernance par les membres du comité exécutif pour que l'ensemble de l'entreprise puisse fonctionner avec encore plus de performance. Donc, c'est un regard des questions de gouvernance, mais du point de vue, pour ce qui concerne les membres du comité de direction, qui, il faut bien le dire aussi, depuis quelques années, ont la vie un petit peu difficile et dure, car que ce soit les commentaires d'une certaine presse, parfois ont tendance à sous-estimer les efforts et véritablement la difficulté et l'exigence de ce métier.
Tout à fait. Ils sont souvent d'ailleurs occultés, c'est-à-dire qu'on parle du président, rarement du comité de direction, un comité exécutif en tant que tel, alors qu'il a une vie propre et une solidarité propre. Alors, autre question, vous faites, on va peut-être revenir bien sûr sur ce que sont les dirigeants, peut-être on peut en parler maintenant, quels sont les dirigeants, que font-ils, où sont-ils? Peut-être brièvement quelques indications sur ce point, leur identité en quelque sorte.
Oui, je pense qu'en effet, dans l'interprétation générale, dirigeant est un terme flou.
Absolument.
Où ça s'arrête, où est-ce qu'on est dirigeant, cadre supérieur, patron, chef, manager. Si on n'est pas spécialisé, ou du moins si on n'est pas dans le monde de l'entreprise en tant que tel, on peut être un petit peu perturbé. Alors pour clarifier un petit peu les choses, simplement pour nos amis auditeurs, il y a une approche qui est une approche tout à fait juridique simple et dirigeant, le mandataire social, celui qui est nommé, etc., par les statuts, mais auquel cas, n'importe quelle structure, quelle que soit sa taille, fournit des dirigeants. Oui. Et comme vous le savez, en France, on a à peu près 2 700 000 entreprises. Techniquement, il y aurait 2 700 000 dirigeants. C'est un regard un peu plus particulier qu'on voulait porter, puisque vous savez que sur ces 2 700 000 entreprises, eh bien, il n'y en a à peu près que 8 000 qui ont plus de 200 salariés.
Tout à fait.
Il n'y en a plus que, j'allais dire, 800 qui ont plus de 1 000 salariés. Donc, les dirigeants sont ceux plutôt qui, du point de vue non pas d'un critère juridique, mais d'un critère de management, sont amenés à conduire et diriger les grandes équipes de nos entreprises. Et on peut estimer, je veux dire, pour donner un indicateur simple à nos auditeurs, à la population des dirigeants et des futurs dirigeants, à une population d'à peu près, en France, 180 000 personnes, ce qui, par certains côtés, paraît énorme, ce qui, d'un autre, est finalement une petite population qui peut plus ou moins bien se connaître.
Voilà. Alors, si on inclut, c'est un chiffre que je connais un peu, si on inclut le secteur public, ce qui n'est peut-être pas à votre approche, on va peut-être légèrement plus loin, mais on va dire qu'on est dans une fourchette de 200 000 pour regrouper sensiblement. Alors, le secteur public, c'est encore autre chose, bien entendu. Mais le concept de cadre dirigeant, on va dire pour nos auditeurs que c'est en gros une fourchette de 200 000, ce qui est important.
C'est énorme.
En termes de population.
En même temps, il y a c'est un petit peu ce que le livre aborde ici ou là, il y a des caractéristiques un petit peu sociologiques. Il y a toujours un grand tropisme, une concentration parisienne, du moins une Île-de-France. Et avant tout, ce que le livre voulait en effet montrer, c'est que ces dirigeants, ce ne sont pas des agents ou des acteurs absolument inhumains, mais que ce sont des hommes et des femmes qui ont des responsabilités.
Moins de femmes, d'ailleurs.
Moins de femmes, vous avez raison.
La parité n'est pas tout à fait respectée.
Bon, on en est encore loin pour ce qui est des dirigeants en place, mais ce qui est passionnant et très rassurant, c'est que les choses sont en mouvement pour ce qui concerne les futurs dirigeants, ceux qui sont en train d'être un petit peu préparés pour ces grands postes à responsabilité et, disons-le, pour les potentiels et hauts potentiels, où là, la proportion de femmes s'accroît. Et on a des mesures, on voit bien dans certains grands groupes actuellement, des mesures qui font que ces femmes arrivent au sommet avec beaucoup
d'envie, de capacité,
et pour elle aussi, beaucoup plus de difficultés. On y reviendra peut-être, car accéder au sommet, prendre des décisions au sommet, signifie avoir un grand nombre de connaissances, certes techniques, mais aussi de réseaux. Et comme elles n'ont 24 heures, et pas plus, comme leurs
homologues,
il y a des contraintes propres qui font qu'elles sont d'autant plus méritantes.
D'accord. Alors là, on retrouve tout à fait le formateur que vous êtes, le grand formateur que vous êtes. Donc justement, la question naturellement qui vient, quelle formation pour les cadres dirigeants, comment les prépare-t-on et comment entretient-on leur employabilité en quelque sorte, car c'est un phénomène très, très particulier qui est celui des carrières et des accidents de carrière qui souvent sont liés aux problèmes de formation et de mauvaise anticipation.
Alors, je vais être un petit peu caricatural, mais vous êtes vous-même un très grand connaisseur de ces circuits de développement, comme on dit maintenant, des futurs dirigeants. Simplement pour insister sur plusieurs points, pour ce qui concerne évidemment la préparation des dirigeants de demain, c'est essentiel car si on ne les prépare pas par rapport aux enjeux de demain, eh bien on aura des dirigeants demain préparés aux enjeux d'aujourd'hui et on aura, je veux dire, finalement raté le coche. Alors, ce qui est important en matière de préparation des dirigeants, c'est d'abord, première notion, ça prend du temps. Et on appelle généralement ça dans le monde anglo-saxon le leadership pipeline, donc la durée de préparation, c'est une dizaine d'années.
Oui.
Et ça, c'est évident. Il faut.
C'est un investissement lourd.
Un investissement lourd. Et puis, il est lourd aussi par, deuxième point, lorsqu'on est dans ces postes de dirigeant, on est à des postes de transversalité, c'est-à-dire qu'il faut avoir connu plusieurs fonctions. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait du zigzag entre le monde de la finance, mais ce n'est pas suffisant, et c'est celui du commercial, de la logistique,
RH,
des ressources humaines, et aussi du contrôle de gestion. Et de plus en plus, comme vous le savez, certaines entreprises mettant ce critère comme étant absolument indispensable, celui de l'expérience à l'international. Donc,
oui.
Vous voyez, il y a deuxième chose, c'est ça prend 10 ans, il faut avoir fait occuper des postes de transversalité, et puis non seulement cela, il faut montrer des critères de potentiel. Et ça, je crois que pour les auditeurs les plus jeunes d'entre eux qui peut-être se destinent à des vocations de dirigeants, il y a un certain nombre de critères que l'on retrouve de façon systématique avec une teinture différente selon les lieux, mais dans le profil du dirigeant de demain. Alors, si vous voulez, je peux peut-être donner quelques exemples.
Avec grand plaisir.
Alors, surtout que les auditeurs ne l'utilisent pas comme une checklist de carriéristes.
Est-ce que je rentre dans la grille ou pas?
Exactement. Mais on peut dire, premier point que toutes les entreprises recherchent, ce sont des personnes qui aiment, qui se passionnent pour la prise de décision. Il faut aimer décider, prendre des décisions. Ce qui est également indispensable, c'est la capacité à anticiper. Un mot qui caractérise beaucoup le dirigeant, comme vous le savez, c'est la vision.
C'est ça.
Et on ne peut pas diriger en simplement se focalisant sur le court terme, mais surtout sur le long terme, il faut une vision. Troisième critère absolument incontournable, je crois, c'est la dimension leadership. Alors là, que les auditeurs se rassurent, ce terme est dans le dictionnaire de l'Académie française et il signifie cette capacité à pouvoir entraîner
les autres
et en particulier des équipes de grande taille. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui est autour de la confiance et de la volonté de suivre quelqu'un qui est engagé, et ça c'est très important. La communication est essentielle, qu'elle soit orale ou écrite, car finalement, le métier des dirigeants est beaucoup autour du verbe, parce qu'il s'agit de s'exprimer en
convaincant
des équipes,
de donner envie.
Et puis aussi, parfois, et surtout, de pouvoir synthétiser sa pensée de façon tout à fait ramassée. Autre critère que l'on retrouve absolument, c'est la capacité à s'adapter à des contextes différents. La capacité d'un moment à l'autre de recevoir un banquier, un syndicaliste, de s'exprimer devant le parterre des actionnaires, puis derrière de devoir congédier un collaborateur auquel on tient.
Une grande souplesse
d'adaptation.
Ouais.
Et aussi, plus on va vers le sommet, et dans certaines entreprises plus que d'autres, une capacité à avoir ce sens politique. Voilà. Et puis, pour terminer, bien entendu, ça n'aurait pas de sens, surtout pour les dirigeants de la grande entreprise. Vous avez tout à fait raison de rappeler qu'il y a aussi ceux de d'autres secteurs. Mais dans la grande entreprise privée, la capacité à délivrer des résultats, à garantir des performances sur des critères véritablement économiques et financiers, savoir faire en sorte que les objectifs seront atteints, savoir donner, j'allais dire, des résultats à un mouvement.
Alors, diriger, c'est donc un talent. Un talent qui est partagé par des hommes et des femmes exceptionnels. Et ce qui est intéressant dans votre ouvrage collectif, c'est que vous avez essayé de théoriser, de faire émerger un concept, on va dire, de, pour simplifier, de corps de cadre dirigeant, c'est-à-dire d'une existence en tant que telle des cadres dirigeants comme élément du dialogue social et de la vie, tout simplement, civile et sociale. Alors, c'est peut-être intéressant que vous nous donniez quelques éléments sur ce point. Parce qu'il y a des efforts de théorisation très forts.
Oui, ce qu'on a voulu faire aussi en rassemblant et sur des contributions extrêmement courtes, c'est-à-dire de 5 pages, des gens qui avaient consacré des vies ou des articles ou des livres plus longs à ces choses, c'est précisément de montrer que la dirigeance, c'est un art. Autour, j'allais dire, de compétences techniques, compétences humaines, compétences aussi d'ordre réticulaire, c'est-à-dire liées au réseau. Et par cette notion de dirigeance, on insiste beaucoup sur le fait que, eh bien, il est important qu'il y ait un équilibre des pouvoirs hein, entre le conseil d'administration, les dirigeants, le corps social, mais que la notion d'équilibre est vraiment fondamentale. Et que peut-être, paradoxalement, pour qu'il y ait véritablement une gouvernance du côté du conseil d'administration tout à fait fluide, il faut que les entreprises disposent de comités exécutifs aussi forts.
Et c'est en soi un élément de régulation.
De régulation.
Autre question que vous avez abordée tout à l'heure, c'est celle des réseaux précisément. Donc un dirigeant sans réseau, est-ce que c'est un vrai dirigeant ?
Je pense même qu'on ne peut pas être dirigeant si on n'a pas de réseau.
Bon.
Parce que être nommé dirigeant, se retrouver dans une fonction dirigeant, n'est jamais le fruit du hasard. C'est le fait d'une nomination. Et ceux qui vous nomment, qui ont le sens de la mission, nomment les dirigeants sur 2 critères au minimum. Ils vous nomment parce qu'ils vous repèrent comme compétent. Et s'ils ne vous connaissent pas, c'est qu'ils font confiance à des personnes en qui vous avez confiance et qui eux-mêmes vous trouvent les cadres compétents. Donc, le réseau est absolument essentiel parce qu'il vous permet d'être repéré. Il vous permet ensuite de prendre des décisions avec beaucoup plus de pertinence parce que vous aurez des sources d'informations diverses. Mmh. Vous aurez aussi des effets parfois négatifs des réseaux, c'est-à-dire les questions d'alliance, de coalition. Mais j'allais dire, tout ceci, finalement, je crois, contribue quand même, et on peut s'en féliciter, en France et en Europe. Je crois qu'on n'a pas à pâlir en matière de qualité de nos dirigeants.
Le pire des dangers pour un dirigeant, c'est effectivement d'être seul. D'autant que, c'est peut-être une des dernières questions, la dirigeance, c'est aussi, vous avez parlé de voyage, mais c'est un voyage au centre du pouvoir. Et on sait que le pouvoir représente aussi en tant que tel des risques. Alors, comment s'en prémunir ? Vous avez dit les réseaux, c'est une façon. Et par ailleurs, comment rester en éveil par rapport à ces dérives qui, d'ailleurs, ont montré, peut-être d'ailleurs en relation avec l'actualité, un certain nombre d'aventures qui sont liées précisément à cet isolement.
Vous avez raison. Merci d'aborder ce point qui est essentiel parce qu'il n'est pas toujours présenté dans les ouvrages classiques. La question de devenir dirigeant nécessite que la personne, tout d'abord, en ait envie et qu'elle sache réfléchir à son entourage et même à ce que j'appelle son désentourage. Car on n'a pas besoin des mêmes réseaux à tous les moments de sa vie de dirigeant. Et il est parfois essentiel de savoir se séparer de personnes, non pas s'en séparer pour vraiment s'en débarrasser, mais savoir les remobiliser sur d'autres points parce qu'ils ne seront plus utiles à un certain développement de l'entreprise et peut-être même serait contre-productif. Également, vous avez abordé un point important qui est celui de la solitude et du stress. Je ne l'ai pas peut-être assez souligné tout à l'heure.
On n'en a pas parlé, mais
je crois que
Sylvie Roussillon est une grande spécialiste.
Sylvie Roussillon est remarquable sur ces points en termes d'analyse du stress des dirigeants, des formes parfois de violence dans l'entreprise au sens psychique. Mais surtout, la résistance au stress est quelque chose de fondamental.
Absolument.
De même qu'on pourrait encore beaucoup l'aborder ensemble, on ne peut pas être dirigeant si on n'est pas dans une excellente forme physique. Et c'est une santé qu'il faut, au-delà
entretenir.
De la question des voyages ou à l'international, ce sont des pressions, hein, c'est une forme d'aristocratie au sens historique, hein, qui fait que ce sont ceux qui vraiment sortent du lot, hein, Et je crois que essentiellement sur les questions de santé, ça c'est absolument fondamental.
C'est ce que vous dites, c'est-à-dire que si je suis dirigeant, je suis stressé, je stresse mes propres collaborateurs, et c'est finalement un stress général qui est source des difficultés, des blocages que l'on connaît. Alors, monsieur le professeur, on a fait un rapide tour de la dirigeance. Peut-être une dernière question d'actualité. Est-ce que vous vous sentez à quelque part dans une certaine déviance de la gouvernance ou dans ce que la dirigeance pourrait peut-être éviter, un lien avec la crise financière que l'on connaît aujourd'hui, mais vraiment en deux mots, hein,
Oui, en deux mots, parce que c'est parfois des sujets qui différencient les économistes des
sociologues.
Des sociologues et des gestionnaires, c'est dans le sens plutôt ceux qui sont sur le versant du management. Je crois que peut-être là, dans les phénomènes de crise actuellement, on est allé trop loin dans certaines visions un peu court-termistes, parce que aussi est-ce qu'on a donné aux dirigeants ce qu'on appelle des incitatifs, hein, peut-être de l'ordre du court terme, que l'on a aussi, et ça il faut le souligner, dans certaines entreprises, réduit considérablement le temps d'exercice des dirigeants en place, si bien que parfois certaines personnes peuvent se sentir responsables que pour la durée de leur mandat et quittant l'entreprise, en sortant, vous savez, ça c'est un point très très important. En termes juste statistiques, un jeune diplômé dans les années 80 avait à peu près à 25 ans la probabilité de connaître 2,5 employeurs. On estime que ce sera autour de 6 ou 7 en 2015.
D'où l'intérêt des différents accompagnements.
Voilà. Et ça veut dire que les collaborateurs de tout niveau, et en particulier cadres et cadres dirigeants, vont de plus en plus connaître un grand nombre d'entreprises au cours de leur vie professionnelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont être confrontés à des expériences multiples. La mauvaise nouvelle, c'est l'engagement et le sens, j'allais dire, du devoir, de la mission au sein d'une même entreprise. Alors voilà un petit peu peut-être déjà l'une des conséquences et un raccourci sur le sujet.
D'accord. Mais écoutez, monsieur le professeur, merci encore pour avoir permis de lever un peu de voile sur cette œuvre absolument monumentale. Les comités exécutifs Voyage au cœur de la dirigeance, paru chez Erol, comité d'organisation, 816 pages, et pour la modique somme, si je me souviens bien, de 59 euros. Franck Bournois, merci encore.
Monsieur Chambon, c'était un plaisir de partager ces moments avec vous.
Et bravo aux co-auteurs et à tous ceux qui ont participé à l'ouvrage dont on parlera, je pense, longtemps.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.